Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de discuter d'un cinéaste qui nous a quittés il y a peu et qui prenait le temps, lui aussi, dans ses documentaires. J'ai nommé Wiseman, Frédéric Wiseman. Voilà, côté musique, vous pourrez ensuite écouter I Pity the Country de Willie Dunn et Alexis Utatnak avec un morceau difficilement prononçable, et je vous défie d'ailleurs de le prononcer, il sera dans le descriptif de l'épisode. Makiyi Egi Valoa Tavut. Voilà. Popcorn et Banjo, la 19e, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Frédéric Wiseman, qui est donc décédé en 2026, c'était un très grand réalisateur de documentaires qui s'est intéressé à toutes les strates de la société américaine, notamment hein, avec des documentaires très directifs sur plusieurs institutions américaines. Il prenait le temps, hein, il posait sa caméra dans une institution et puis pendant plusieurs mois il filmait et ensuite il attaquait en montage la trame de son documentaire. Ce sont des docus sans voix off, hein, il n'apparaît pas dans ses films, en revanche il est évidemment extrêmement présent dans ce qu'il décide de montrer. C'est un cinéaste qui s'est intéressé à la police américaine, aux hôpitaux psychiatriques, aux lycées américains, à Aspen, aux bibliothèques nationales, aux salles de boxe, aux formations des Marines américains pendant le Vietnam, et puis d'autres encore et encore et encore. Il a fait une quarantaine hein, de documentaires. Il commence en 1967 avec Titty Cut Follies, sur lequel on va parler. Mais avant ça, Charles, j'aimerais savoir un petit peu comment et quand Wiseman arrive dans ta vie. Quand est-ce que tu te mets vraiment à voir ses films? En tout cas, me concernant, c'est un nom qui existe depuis longtemps dans ma tête. Je l'ai souvent croisé dans des conversations, mais je me suis vraiment attaqué à Wiseman après sa mort. Et voilà, j'ai évidemment pris une claque. Donc moi, je suis curieux par rapport à toi.
Moi, j'ai découvert Wiseman, en 2016-2018. Quelque chose comme ça. C'était un copain qui m'en avait parlé parce que je crois qu'il avait acheté des coffrets DVD de Wiseman. Et il se trouve qu'en tout cas, en 2018, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Monrovia, Indiana, qui, en fait, est un film de, je crois, 2h30, dont mon souvenir est très long en tout cas, et où, en fait, ça va parler de cette petite ville en Indiana qui est quasiment exclusivement blanche et qui a, dans mon souvenir, en tout cas, c'est la ville qui avait le plus voté pour Trump à l'époque. Et en fait, Wiseman va poser sa caméra et va simplement filmer la communauté. Donc il va filmer le barbier, il va filmer la mairie, il va filmer des gars qui sont francs-maçons. Il va filmer un peu tout le petit bled, mais sans jamais dire que en fait, ce sont tous des magas, que ce sont tous des républicains, etc. Et en fait, ça va être vraiment un film sans jugement sur en fait, qu'est-ce que c'est une petite ville qui est pourtant, si on regarde bien, finalement, si on regarde un peu, si on gratte un peu, en fait, a voté pour quasiment toute la ville a voté pour Trump, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Wiseman. Et j'ai tout de suite adoré son travail, en tout cas documentaire. Et surtout, il fait partie de ce qu'on peut appeler aussi du cinéma direct, hein. C'est-à-dire ce cinéma qui tourne en fait dans l'instantané, qui se veut dans la vérité, en tout cas qui va tout de suite poser sa caméra, filmer et dérouler, 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 dérouler jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère chez Wiseman.
Oui, puis il n'y a pas de. Effectivement, il n'y a pas de. En apparence, dans ce qu'on ressent, en tout cas, il n'y a pas de trucage, d'effet de montage autre que le fait de couper, enfin d'être cut entre deux plans, quoi. Il n'y a pas de stylisation du montage. En revanche, il y a un énorme style, notamment dans Boxing Gym, il y a un travail sur le son, et d'ailleurs, c'est lui qui a édité, enfin qui a monté le son de son film. Et là, il y a vraiment tout un univers. Au niveau des bruits des gants de boxe, sur les sacs de frappe, les paos, les gens qui font de la corde à sauter, etc., qui est extrêmement riche. Mais sinon, effectivement, on est plein cadre, on montre et on sent clairement qu'il n'y a pas de trucage, quoi. Y a pas de... Ça n'est que de la vérité. En revanche, je suis curieux, le film que tu as vu, visiblement, donc si ça a voté Trump, ça doit être un des derniers de Wiseman. Et j'ai remarqué dans sa filmographie que la première partie de sa filmographie est assez. On est sur des films assez, on va dire, courts comparativement à ce qu'il fait ensuite. On est sur des films de 1h15 à 1h30, quoi, en gros, hein. Et ensuite, il va vraiment. Pêcher dans sa signature, si je peux dire ça comme ça. Évidemment, je pense que c'est pas négatif du tout, mais soudainement, il va avoir en tout cas la possibilité de faire des films qui vont durer 2h50, 3h50, 4h30, et vraiment d'avoir un regard encore plus approfondi sur les institutions qui filment. Et donc, je suis curieux, j'imagine que le film dont tu parles, c'est déjà un film de cette temporalité-là, ou si tu t'en souviens, c'est une question un peu piège, mais.
Non, bah c'est un film qui reste assez lourd dans mon souvenir, hein, mais je crois qu'il fait bien au moins 2h20, quoi, je pense. Mais par contre, dès les années 70, hein, pour le coup, Welfare, qui date de 75, et que j'ai eu la chance de voir avec Wiseman qui présentait en fait le film parce qu'il avait été restauré, et c'était à la Cinémathèque. Et là, le film fait déjà 2h40 ou 2h45. Donc dès les années 70, en fait, il va commencer en fait à taper très fort en fait dans cette temporalité, comme tu dis. Mais ce qu'on retrouve moins effectivement dans ses premiers films, et ce qui en fait presque non, tout ce qu'a fait Wiseman et les documentaires qu'il a pu faire sont tous vraiment superbes. Hein. Attention. Mais là, on va parler des premiers films. Donc on va parler de Ticket Follies, de Law and Order, par exemple, où je trouve qu'il n'a pas encore trouvé sa patte justement, on va dire, d'auteur. Alors, et même si bien sûr le documentaire c'est de la vérité, il y a quand même bien entendu un point de vue d'auteur sur la situation, sur la question, et surtout sur les institutions qui filment bien sûr Wiseman. Et du coup, moi j'aime Wiseman, j'ai l'impression à partir des années 70 vraiment, où j'ai l'impression qu'il déploie vraiment son inventivité de cinéma et surtout sa délicatesse pour juger les gens et pour les filmer.
Ouais, mais c'est intéressant parce que moi j'ai pas le regard. De Wiseman récent, j'ai pas encore découvert. À date, j'ai vu que quatre de ses films qui sont plutôt dans la première partie de sa carrière. Et déjà, j'ai pris une énorme claque. Mais je suis très curieux justement de que devient Wiseman quand il s'accorde cette possibilité du temps long, du temps très long même, qui est tiré au maximum. Et en plus de ça, moi, je trouve dans les films que j'ai vus. Ça va vite quand même dans le rythme, et effectivement, tu disais qu'il a un regard assez acéré sur les institutions, et je crois que d'ailleurs ces derniers films ont été produits par la France parce qu'il était plus produit aux États-Unis. À vérifier ce que je dis, à prendre avec des pincettes, mais il me semble que c'est le cas. Et ces films sont tellement subversifs, en tout cas ceux que j'ai vus sur les institutions américaines, que ça m'étonne pas que. Qu'après 40 ans de carrière, il est commencé à avoir un peu de mal à se faire produire aux États-Unis, surtout au vu des politiques actuelles.
Bah surtout que là, si on parle de Ticket Follies, son premier long, qui date de 67, on va tout de suite aller dans le dur, vu que ça parle des hôpitaux psychiatriques. Et là, c'est vrai que les images sont très dures. C'est des gens qui sont maltraités psychologiquement, physiquement. Il y a beaucoup de scènes de nudité où ils sont balancés dans des dortoirs. On les laisse vraiment tout seuls. Enfin, on les laisse vraiment tout seuls. Il y a vraiment quelque chose de vraiment crasseux, mais vraiment, on dirait un film sur les hôpitaux psychiatriques. C'est quelque chose de vraiment très très sale. Et le film d'ailleurs va être directement censuré, hein, par ailleurs. Hein. Et je pense à juste titre pour ceux qui le voulaient, parce que franchement, ça montre une image très négative des psychiatres, des surveillants, des médecins. C'est vraiment très très dur à voir. Mais après, moi j'aurais des choses à redire sur justement ce début de mise en scène qu'il a et dont je suis moins fan.
Et il me semble, c'est un détail important, mais c'est un hôpital psychiatrique pour criminels aussi. Hein. C'est des gens qui ont, ce sont des gens atteints de potentiellement de maladies psychiatriques, mais qui ont fait des crimes, des viols, etc. Donc c'est assez violent. Mais oui, c'est un film qui raconte, en fait, il pose sa caméra à l'institut correctionnel, ouais, l'institut psychiatrique correctionnel de Bridgewater, au Massachusetts. Et en fait, on est dans un espèce de délire de violence où, honnêtement, on ne sait plus qui est fou. Enfin, ils ont l'air tous complètement dingues. Les gardiens sont extrêmement violents avec les détenus. C'est montré sans filtre, hein, donc c'est assez dur. Moi, il y a des scènes qui m'ont mis... Je l'ai regardé ce matin à 7h30 du matin en me réveillant. Il y a des scènes qui ont été très difficiles, notamment ce que tu es en train de mimer. Il y a une scène d'intubation parce qu'un détenu refuse de se nourrir depuis 3 jours, donc il lui passe un tube... en caoutchouc dans le nez jusque dans l'estomac, et ils le nourrissent en versant de l'eau, j'imagine de l'eau avec des nutriments directement dans le tube. Et en parallèle de ça, il y a un montage alterné avec l'enterrement de ce détenu. Hyper violent, c'est vraiment une scène de torture. Hein. Franchement, là, on est sur une scène de torture non censurée, plein cadre et qui dure bien 5 minutes. Donc c'est très très dur. Et puis il y a une scène qui est folle. Je sais pas si tu te souviens, tous les détenus sont à poil dans la moitié du film. Hein, ils sont habillés quand ils sont à l'extérieur ou dans une ou deux pièces communes, mais sinon ils dorment à poil dans leur cellule. Il y a une scène où ils sortent un détenu et puis le gardien lui demande, mais toutes les 30 secondes, comment elle était ta cellule aujourd'hui ? Et le détenu répond qu'elle était sale, pas rangée. Et puis ils insistent là-dessus, ils insistent, ils lui disent « Demain, elle sera rangée, ta cellule, demain, elle sera rangée. » Et à la fin du plan, évidemment, le détenu, ça le met dans une nervosité, il est complètement à fleur de peau, il est instable psychologiquement, et il craque, quoi, il crie, il dit qu'il va ranger, et puis on le balance à la fin dans sa cellule à poil, et en fait, la cellule est vide, il n'y a rien dans cette cellule, rien à part... un matelas posé sur le sol, mais vraiment, c'est totalement, c'est une cellule avec aucun meuble, aucun vêtement, aucune affaire, et donc on comprend évidemment que c'est aussi une forme de torture psychologique. Donc ouais, c'est un documentaire qui est dur, mais toi, en plus de l'avoir apprécié, je sais que tu as un regard aussi un peu plus critique sur certaines choses, tu veux nous en dire un peu plus ?
Oui, non, parce que là, tout ce que tu as dit, c'est très vrai, encore une fois, moi, je trouve le film est vraiment, vraiment excellent, même s'il est très dur à regarder. Moi, le seul petit problème que j'ai avec Ticket Follies et avec Law and Order et avec certains films qui vont suivre après de son tout début de filmographie, c'est qu'il n'a pas encore accepté de justement prendre le temps de filmer. Là, il va aligner les scènes et on sent que c'est des scènes qui sont importantes hein, parce qu'elles sont violentes, elles sont choquantes, elles dénoncent beaucoup de choses. Mais malgré tout, il va passer d'une scène à une autre très rapidement. Et dans son cinéma qui se veut justement dans ce cinéma très du direct et très, non pas lent, mais où il va construire une scène et qui va effectivement l'étirer. Il y a des moments où dans certains de ses autres documentaires, vraiment, on se demande même pourquoi il montre ça à l'image. Mais en fait, c'est aussi c'est comme si d'un coup, le spectateur était lui-même actif et qu'il était projeté dans un univers très concret et très réel, du coup, forcément. Et donc, en fait, tu arrives à te projeter dans ces situations-là. Alors bien sûr, pour Ticket to Follies, c'est aussi un peu particulier parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est un hôpital psychiatrique où en plus il y a des criminels qui sont enfermés. Mais malgré tout, Son montage est bien plus rapide, bien plus, non pas du reportage, hein, parce que ça serait un peu méchant de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il n'accepte pas encore de mettre l'humain au cœur de son sujet, mais plutôt des séquences au cœur de ses sujets. Je ne sais pas si c'est très clair, mais de mettre plutôt des scènes d'action, du mouvement, plutôt que de vraiment s'intéresser à l'humain. Ce qui fera, je trouve, vraiment très bien après. Hein. Et encore une fois, je trouve que Tetty Cut Follies, c'est vraiment un film incroyable, mais ça manque un peu de ça encore, et ça se voit même dans le montage qu'il fait, où par exemple, Tetty Cut Follies, en fait, c'est le nom du spectacle que font les détenus en fin d'année, j'ai l'impression. Et en tout cas, le Tetty Cut Follies cabaret, on va dire, en fait, c'est l'ouverture et la fin du film. Donc il y a déjà comme ça une espèce de posture de mise en scène, comme si en fait, ce qu'on allait voir, c'était un show, un spectacle. Et non pas que je trouve ça un peu moyen comme idée ou bon ou quoi, mais je trouve ça particulier de vouloir presque non pas fictionner, mais en tout cas de vraiment faire de la mise en scène pure et dure là où il va vraiment s'éloigner de ça après. Voilà, c'est un peu mes toutes petites les petits bémols que j'ai vis-à-vis de ce film.
Mais ça reste de la mise en scène ce qu'il fait après, j'imagine quand même, non ? C'est quand même des choix hyper réfléchis. Ah bah c'est pas juste de la télé-réalité, quoi, tu vois, où il pose une caméra dans un lieu.
Ah bien sûr, mais de toute façon, il y a toujours quelque chose de très concret de toute façon, dans ce qu'il montre. Hein. Sauf que, encore une fois, dans Tetty Cut Follies ou Law and Order, on a l'impression qu'il passe d'une scène à une autre parce qu'il sait pas exactement encore ce qu'il a envie de montrer. C'est-à-dire qu'il va présenter des choses choquantes, des choses parfois délirantes, vraiment, c'est comme des petites scènes d'action, mais c'est comme s'il n'avait pas une cohérence totale encore dans le côté émotionnel, et moi, c'est aussi ce que j'aime dans les documentaires de Wiseman, et c'est ce qu'on retrouve, mais aussi, effectivement, par ce temps long, et cet étirement. Et moi, je pense qu'il va vraiment commencer à l'avoir en 70 avec le film qui s'appelle Hospital, qui parle là pour le coup d'un hôpital, et on va suivre les journées de tous les médecins, des patients, où là il va commencer justement à un peu plus poser sa caméra, un peu moins filmer l'action en se disant bon en fait finalement un mec au téléphone c'est peut-être bien plus poignant que de voir quelqu'un qui se fait charcuter par un chirurgien ou des choses comme ça. Il y a vraiment il va vraiment remettre purement, je trouve en tout cas, l'humain au centre de tout et la parole au centre de tout. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant dans son cinéma.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country et qui appartient au créneau Vive le cinéma sur Allegre FM 93.1. Alors, peut-être que ses premiers films, il n'avait pas cette latitude, ça je ne sais pas, ce serait intéressant de... Il y a un bouquin sur Wiseman chez Playlist Society qui est très bien, où il y a à la fois un travail théorique de critique et un entretien avec lui. Mais il faudrait s'y pencher pour savoir si c'est aussi une histoire de... Peut-être qu'il n'a pas le temps dans ses premiers films en termes de plage horaire qu'on lui accorde, tu vois, de faire un premier long de 4 heures. C'est peut-être un peu chaud, quoi. Je sais pas, hein.
Non, mais je pense que c'est surtout que voilà, le mec à la base c'est un avocat, il commence à faire du cinéma et du documentaire parce que vraiment c'est, enfin bon voilà, les allées de la vie et la passion machin, enfin tout ce que tu veux, et ça reste un premier documentaire qui reste très fort et vraiment très bien. Mais comme, parce que Wiseman, malgré que ça soit un documentariste, c'est aussi entre guillemets, enfin moi je le considère vraiment comme un artiste. Il va d'ailleurs faire des films plus tard. Hein. Il va simplement trouver sa patte plus tard, mais comme beaucoup de gens. Mais c'est pour ça aussi qu'il se fait la main sur... Enfin, il se fait la main. Il va parler de beaucoup de sujets, justement pour pouvoir créer sa propre voix, j'ai envie de dire, sa propre façon de parler de la réalité.
En tout cas, mêlé aux scènes choc de Tetty Cut Follies, il y a quand même des visages, des personnages qui reviennent. Évidemment, il y a cette espèce de type détestable qui est le chef de l'établissement, hein, le médecin à la tête de cet établissement. Il y a le gardien, le chef des gardiens, quoi. Et puis il y a deux trois détenus qui reviennent, notamment, je sais pas si tu te souviens, mais ce détenu qui semble dont les médecins disent qu'il est paranoïaque et qui semble avoir plutôt sa tête. Et là, il y a vraiment des discussions terribles qui font vraiment penser à. Enfin, ça me fait vraiment penser à des films comme Shutter Island, où vraiment il y a vraiment des conversations réelles du détenu qui explique au médecin qu'il se sent bien et qu'il aimerait bien sortir et que ça fait un an et demi qu'il est là et que la seule raison de, pour laquelle il lève un peu la voix, c'est parce qu'en fait, émotionnellement, il commence à être fragilisé. Il dit des trucs qui sont étonnants de clarté. Il explique qu'il est entouré de bruit. Et de gens qui crient, de télé allumée, et qu'en fait, un hôpital psychiatrique, c'est censé t'aider à aller mieux, mais que cet univers-là ne fait que te tirer vers le bas. Et il est affolé, son médecin lui dit, donc le chef de l'établissement, lui dit « Mais tu sortiras quand tu iras mieux, tu vas moins bien qu'avant. » Et ce détenu patient lui dit « Mais c'est normal, depuis que je suis là, je faiblis en fait. C'est un lieu qui m'affaiblit. » Ça, c'est des dialogues qui sont terrifiants. Et ensuite, on le voit passer devant le board de gens qui vont décider s'il sort ou pas. Et on comprend que les dés sont pipés seconde une. Et donc, il y a quand même ce... Effectivement, c'est plus ramassé. Il y a un côté, comme tu dis, d'aller vers « entre guillemets l'action », « entre guillemets les scènes choc ». Mais il y a aussi ces... Dans Titty Code Follies, il y a ces visages qui reviennent le temps de plusieurs scènes et qui ponctuent ce documentaire. Alors après Titty Code Follies, qui est un film qui va être censuré et qui est un film d'une grande puissance et d'un grand choc au niveau mondial et américain, qui va déjà tout de suite marquer son auteur dans une certaine catégorie de cinéaste vraiment engagé. Il fait un film qui s'appelle High School. En 68, donc l'année suivante, un autre documentaire. Et puis en 1969, Wiseman pose sa caméra au Kansas City, dans le Missouri, donc c'est vraiment plein centre des États-Unis. Et cette fois-ci, il décide d'aller suivre la police, ceux qui patrouillent dans la rue notamment. Et puis il fait un documentaire qui s'appelle La Loi et l'Ordre, Law and Order. Moi, énorme claque. J'ai adoré ce documentaire, qui est aussi un documentaire très dur. On suit, autant vous dire qu'on suit la police du Kansas City en 1969, avec tout ce que ça implique de racisme, de sexisme, d'alcoolisme, de violence. Mais aussi de temps en temps, de vrais moments de tendresse. Et assez étonnant, notamment quand ces policiers s'appellent parce que un jeune gamin qu'ils ont arrêté est libéré et ils s'appellent pour se prévenir et se dire de faire attention dans la rue, de bien regarder derrière eux parce qu'ils ont peur de se faire buter. Il y a deux trois moments comme ça assez délirants. Mais globalement, c'est un documentaire, il n'y a pas de sujet, c'est un documentaire très, 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 très engagé et qui dit des choses très dures de la police, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé, et puis on va creuser un peu tout ça ensemble.
Écoute, là-dessus, j'aurais les mêmes griefs que sur Titty Code Follies, j'ai envie de dire. Mais ça reste pareil, un très bon documentaire pour ce qu'il est, mais c'est surtout que ce qui est intéressant, plus que de... Peut-être que toi, t'en parles déjà mieux que moi, je trouve, de ce documentaire, parce que j'ai l'impression que je vais pas beaucoup plus à en dire, mais c'est surtout, ça montre bien le travail de Wiseman, là, à travers les quelques films dont tu as parlé, là, en récitant un peu sa filmographie. Wiseman, ce qui est génial, c'est qu'il va vraiment... Comme phrase, mais il va prendre un peu le pouls de l'Amérique. Il va aller partout. Il va voir la médecine, il va voir les flics, il va voir les services sociaux, il va voir, il va faire un documentaire sur la Bibliothèque nationale de je sais pas où, il va faire sur les écoles, bref. Sur l'armée, que t'as vu, toi. Wiseman va vraiment, en fait, poser sa caméra, mais absolument partout, pour un peu faire un grand scanner de ce qu'est l'Amérique. Et il va même faire des suites à certains de ses documentaires. Je crois que, justement, High School, il y en a un deuxième qui est sorti dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Wiseman a ce travail vraiment de minutie, et vraiment, un travail de fourmi, où il va vraiment spotter chaque institution de l'Amérique. Et dans Law and Order, effectivement, alors c'est plutôt du côté des flics et des, bien sûr, et des gens qui se font arrêter, mais c'est pareil, moi il y a des séquences que je trouve parfois un peu... pour être honnête, moi, c'est pas mon préféré de ceux que j'ai pu revoir là. Moi, je trouve qu'il y a des séquences qui sont quand même un tout petit peu longues. Je pense à cet jeune homme afro-américain qui se fait arrêter, qui a 16 piges, et ça dure extrêmement longtemps, et malheureusement, je ne vois pas... Alors, c'est, encore une fois, ça reste intéressant, entre guillemets, mais je vois pas l'intérêt, par exemple, d'avoir montré ces séquences-là en particulier... où c'est plus des séquences un peu véhémentes, alors qu'il y a plein justement d'autres moments qui sont soit plus posés, mais enfin qui sont souvent plus posés, mais qui par contre qui sont vraiment beaucoup plus tendus ou qui montrent beaucoup plus de choses justement sur cette Amérique un peu scindée entre la fin de la on va dire la fin de la ségrégation et toutes les tensions raciales, économiques, sociales qu'il y a dans le pays au même moment quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et puis il y a une scène que j'aime beaucoup où t'as deux policiers en bagnole, l'un en face de l'autre, garés, qui sont en pause, je pense, et qui parlent de leur salaire et de leur salaire comparativement aux policiers de Los Angeles.
Et ça, il y a plusieurs discussions en bagnole comme ça.
Et effectivement, ça c'est assez intéressant. Et je suis d'accord que effectivement la séquence dont tu parles, il y a un côté un peu Cops, la série Cops, où tout d'un coup on voit l'arrestation de cet Afro-Américain. Qui je crois qu'il a volé une bagnole, mais effectivement ça s'étire. Après, ce que ça montre aussi, c'est la manière dont petit à petit ça va déraper et quand même à la fin le gamin se prend des coups de, enfin, on lui attrape sa tête et on la frappe contre le capot de la bagnole. Donc la scène elle tend quand même vers ça, mais je suis d'accord qu'elle s'étire un petit peu, ouais, ça c'est vrai. Et par exemple il y a une autre scène très très dure où ils arrêtent, je suis pas sûr de ce que je dis donc ça, faut faire attention, mais je crois, si j'ai bien compris, que c'est une prostituée qui débute, qui est aussi afro-américaine.
Et qui est mineure je crois, hein.
Ah ouais, ok. En tout cas, ils l'arrêtent et ils l'étranglent en fait. Hein.
Ah oui, non, c'est quelqu'un d'autre, ça. Oui.
Il l'étrangle et...
Ça, c'est hardcore.
C'est très violent. Évidemment, un policier blanc qui étrangle une afro-américaine qui crie au début « Vous m'étranglez, laissez-moi respirer. Ben, » ça rappelle évidemment Black Lives Matter et tout ce qui s'est passé avec George Floyd notamment. C'est très, très choquant parce que c'est fait face caméra et le policier a l'air extrêmement tranquille. Et d'ailleurs, à un moment, il la lâche à la fin de la séquence. Et elle lui a dit « Vous m'avez agressé, c'est votre parole contre la mienne. » Et je sais plus s'il éclate de rire ou s'il regarde la caméra, vraiment très fier de lui. Et lui a dit « Mais non, on t'a pas touché, je t'ai pas touché. » Et puis il s'en va de là. Donc voilà, il y a quand même des choses mais qui sont délirantes d'imaginer d'ailleurs l'impunité que ces gens-là ont, et en tout cas avaient, et peut-être ont encore aujourd'hui, de penser que même plein cadre, ils peuvent se permettre ça. Et le film donne la parole à ces gestes-là, et pour ça, il est important. Et effectivement, l'arrestation de cet autre jeune est un peu longue, mais elle va vers cette scène violente de fin qui est importante.
Oh non, pardon, je voulais pas te couper, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que la scène justement de cette femme prostituée montre bien plus de choses, ouais, que ce gamin qui est en fait aussi... alors, non pas que je sois pro-violence policière, mais tu vois que le gamin est hyper véhément, il se bastonne un peu, machin. Donc il y a quelque chose de plus... non pas m'as-tu vu, c'est vraiment... Parce que c'est vraiment pas dingue de dire ça pour un documentaire surtout. Mais on a l'impression qu'il privilégie plus, encore une fois, l'action... que ce que ça veut complètement dire, même si je suis d'accord avec toi sur quand même le sens de ce qui se passe, mais je crois que justement dans les séquences qu'il y a dans ce documentaire, il y a des moments qui sont bien plus pertinents, comme cette femme prostituée, comme aussi il y a un gars qui est complètement bourré, mais on peut même pas le soulever, et t'as une dame du quartier qui vient, et je trouve que ça, par exemple, et pourtant c'est pas une séquence c'est une séquence qui est un peu pathétique et triste, mais représente bien mieux, je trouve, la vie d'un quartier, bien mieux, tu vois, qu'une espèce d'épiphénomène d'une espèce d'un petit loubard, parce que c'est un peu ça, le mec c'est un mec de 16 piges qui a un peu une petite racaille, machin. Je trouve que ça représente moins quelque chose que justement cette prostituée, que ce mec alcoolo, que certaines autres populations, quoi, on va dire.
Et certains personnages attachants aussi. Il y a cette femme alcoolisée dans le commissariat, je sais pas si qui est vraiment alors on comprend qu'elle est vraiment dans un état. Voilà, elle représente une classe sociale qui en chie quotidiennement. Elle est alcoolisée à je sais pas combien de degrés, mais elle est assez attachante et les policiers rigolent avec elle. Et il y a des séquences comme ça un peu arrêtées qui sont belles, quoi, qui sont vraiment belles. Mais non, en tout cas, un film que moi j'ai trouvé immense. Titi Code Follies aussi. J'attends de découvrir la suite. D'aller un peu vers ceux que tu m'as conseillé et puis dès que j'ai le temps de vraiment de me poser et de découvrir tout ça, mais en tout cas ça me fait beaucoup penser au livre et au documentaire dont tu parlais la dernière fois, Une histoire américaine. J'ai l'impression que Wise Man c'est aussi une histoire américaine de 40 tomes, 40 volumes qui va chiner partout et on a envie d'y aller, quoi, d'aller tous les découvrir. Juste avant de ta chronique musicale, peut-être on peut chacun terminer sur un Wise Man qu'on a vu indépendamment l'un de l'autre.
Allegre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country et qui appartient au créneau Vive le cinéma sur Allegre FM 93.1. Moi j'ai envie de vous conseiller pour... je suis entré comme ça dans l'univers de Wise Man parce qu'on m'en a beaucoup parlé, de Boxing Gym. Voilà, l'histoire d'une salle de boxe. Une salle de boxe avec tout ce que ça implique, hein, les différentes classes sociales qui se mêlent, les femmes qui viennent s'entraîner avec leur bébé qui dorment à côté, posé sur le ring, des avocats, des flics, des gens de la maçonnerie, de tous les univers qui se rencontrent dans cette salle, et évidemment le coach de la salle qui est très 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 attachant et qui gère tout ce microcosme. Et le film est magnifique, semi-hypnotique dans sa bande-son, hein, qui est constituée uniquement des bruits de la salle de boxe. Et c'est une bonne manière, je trouve, de rentrer chez Wise Man, de s'arrêter sur ce lieu avec lui et de découvrir tout ce qui se passe autour de cette salle qui est centrale, en fait, dans ce quartier. Donc voilà, Boxing Gym, je vous le conseille vraiment. Et puis après, à mon avis, aller vers les institutions qui vous intriguent, qui vous intéressent, parce que voilà, il a un regard quand même très 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 étonnant. Je sais pas toi, quel film t'aimerais conseiller comme ça en plus. Je te laisse le micro.
Moi, je vais vous conseiller deux films un peu resserrés. C'est Hospital, qui est sorti en 70, et Juvenile Court, qui est sorti en 73. Titi Code Follies, La Loi et l'Ordre, Hospital, Juvenile Court, vous pouvez retrouver ça sur MyCanal et sur OSS, si vous voulez voir ça d'une façon légale et gratuite. Enfin, pas gratuite, mais au moins légale, plutôt. Et Hospital, donc ça va parler donc, du coup, d'un hôpital et de la vie d'un hôpital. Mais Juvenile Court, c'est l'histoire d'un tribunal pour jeunes délinquants. Et là, ça y est, là c'est pour moi, c'est vraiment le Wise Man que j'aime, que je reconnais. C'est un film qui fait bien 2h20 et qui va en fait simplement justement suivre, mais là pendant parfois 20-25 minutes, un seul et même gamin, quoi, par exemple. Et on va trouver des gamins qui ont fait des braquages, des gamins qui ont dealé de la drogue, on va trouver plein de jeunes paumés, plein de parents un peu désespérés, enfin, on va voir les flics, les juges d'instruction, qui essaient de raisonner un gamin, par exemple, qui, en fait, veut pas faire, genre, 6 mois dans une prison pour jeunes délinquants. Il préfère, il se rend pas compte, mais en fait, s'il va jusqu'au tribunal, en fait, il peut se prendre 20 ans de tôle, voire la chaise électrique. Et c'est des choses comme ça qui sont hyper, enfin, vraiment très puissantes, et où, justement, Wise Man va étirer, pour, justement, là, montrer, en 2h20, comment ça se passe de l'arrestation, on va dire, d'une personne à, vraiment, sa condamnation. Et tout ça, bien sûr, alors que c'est des gamins et des gamines qui ont même pas 18 piges, quoi.
Autre piste de lecture, si vous voulez creuser dans le documentaire, à l'inverse total de Wise Man, il y a un autre cinéaste énorme du documentaire, c'est Werner Herzog. Et c'est intéressant, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Charles, mais c'est intéressant parce que là où Wiseman il disparaît le plus possible et il n'existe que dans ses cadres et dans son montage, ce qui est déjà énorme, hein. Mais encore une fois, pas de voix off, pas de présence de Wiseman dans ses documentaires physiques, etc. Herzog, c'est l'inverse absolu, hein. C'est généralement lui qui fait ses voix off. Il n'hésite pas à se filmer dans ses documentaires. Parfois, il fictionnalise un petit peu des choses autour de la réalité pour parler de la réalité. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui va pousser au maximum les curseurs de l'esthétisation, de la mise en scène, pour évidemment parler de quelque chose de réel. Et donc, c'est peut-être un peu l'anti-Wiseman, mais c'est tout aussi bouleversant et étonnant. Et voilà, je pense que c'est une bonne piste de lecture pour réfléchir le documentaire avec ces deux directions, ces deux grandes directions. Et puis après, il y en a plein d'autres, hein, mais qui sont vraiment intéressantes. Et effectivement, il y a Raymond Depardon. Après, moi, je connais surtout son taf de photographe, si tu veux en dire un mot.
Je connais aussi beaucoup son travail de photographe, mais Raymond Depardon, pour le coup, c'est vraiment le pendant français de Wiseman, c'est-à-dire c'est beaucoup de cinéma direct. Il a fait, si vous voulez voir un Titicot de Folies avec des très gros guillemets à la française, il y a un documentaire qu'il a fait dans les années 2010 qui s'appelle 12 jours, qui en fait va montrer des discussions entre des criminels en hôpital psychiatrique et je ne sais plus si c'est des juges ou quoi que ce soit encore, mais en fait ça va être un peu la discussion entre les deux entre eux pour savoir si les criminels peuvent sortir de l'hôpital. Et c'est absolument dingue, c'est vraiment quasiment que des face cam, enfin que des conversations en fait face caméra entre les deux,
Contre champ,
ouais,
quoi.
champ contre champ entre les deux parties. Et c'est absolument sublime. Et justement, on retrouve pour moi cette même magie qu'on a chez Wiseman, c'est-à-dire l'humain mis en avant dans des séquences vraiment très concrètes, très réelles, et qui nous, je trouve, nous rend vraiment actifs dans la conversation en fait qu'on a avec le documentaire.
Charles, tu vas donc nous parler de deux groupes différents. Hein. On n'est plus dans Johnny Cash. Je vais te laisser commencer avec Willie Dunn et puis ensuite tu vas pouvoir enchaîner, n'est-ce pas, avec, je n'ai pas son nom, Alexis Outatnak. Voilà, c'est à toi.
Effectivement, aujourd'hui, après deux émissions passées avec l'album Bitter Tears de Johnny Cash, qui défendait la cause des autochtones, on va un peu parler des principaux intéressés pour clore cette trilogie. Alors, j'ai essayé de trouver, pour commencer, des artistes autochtones qui font de la country. Je n'en ai tout simplement pas trouvé. Vraiment, c'est incroyable. Je pensais quand même, parce que j'en connaissais pas, en tout cas de base, mais j'ai essayé de chercher, en tout cas, un peu de fouiner un peu. Alors peut-être que vous me direz dans les commentaires ou ce que vous voulez, qui sont ces artistes-là, mais je n'ai trouvé absolument personne. Alors, ceci peut s'expliquer par le fait que la condition des autochtones et des Afro-Américains sont très différentes de celles des Blancs, bien sûr, d'une façon sociétale, économique, historique. Et c'est vrai que les gens issus des minorités, ou en tout cas des minorités qui ont été sacrifiées, pour la grande cause américaine, en fait, se sont plutôt retrouvés dans d'autres styles musicaux. Et là, je pense particulièrement, du coup, au rock, au blues et à la folk. Et hein, là, on peut citer, enfin, en tout cas, on peut citer comme ça Link Wray, qui est quand même presque le papa du hard rock. En tout cas, on l'appelait le missing link, c'est-à-dire c'était vraiment le chaînon manquant entre le blues et le rock. Et lui, il était, en tout cas, d'origine Shawnee. Jesse Davis, énorme guitariste que je vous recommande, ses parents étaient Comanches et Kiowa. Le chanteur canadien Willie Dunn, dont on va écouter un morceau, lui était d'origine Micmac. Et bien sûr, Jimi Hendrix, hein, dont la grand-mère était d'origine Cherokee. Donc là, je vais plutôt vous présenter d'ailleurs des artistes qui ne sont pas américains, mais canadiens. Quand même, il faut quand même le souligner. Mais parce qu'ils font partie, en fait, d'une sublime compilation du label Light in the Attic, qui a déniché en fait, enfin qui essaye de dénicher sans cesse des artistes, on va dire, soit tombés dans l'oubli, soit qui font de très belles rééditions. Je pense à Nancy Sinatra ou des chanteurs, chanteuses vraiment de ces époques-là. Et là, la compilation en fait que je vais vous présenter, elle s'appelle Native North America Volume 1. et ça regroupe en fait des artistes métis de First Nation et Inuit. Et là, c'est vraiment un travail colossal pour regrouper 36 morceaux. 36 morceaux, oui. Ça a été soigneusement collecté par en fait Kevin House, qui est un DJ et aussi qui est un énorme digger qui habite à Toronto et qui a fait cette compilation qui en fait montre vraiment toute l'étendue des talents, en tout cas de ces peuples autochtones. Et le seul petit problème, c'est bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'informations à leur sujet parce que forcément, en tout cas, les artistes qu'il a réussi à trouver sont quasiment inconnus. Ils ont fait parfois un morceau et puis c'est tout. Donc c'est vraiment un grand travail de recherche. Je vais d'abord vous faire écouter une balade folk donc de Willie Dunn qui s'appelle I Pity the Country. Et même si ça parle de la politique canadienne, vous allez voir, quand même, ça parle d'une façon globale, je pense, de la mentalité, de ce que ressentent les natives, les autochtones, de la politique, de toute façon, de l'Amérique du Nord, d'une façon globale. Le deuxième morceau, du coup, lui, est un peu plus compliqué à prononcer. Thomas a essayé de le faire. Donc, il s'appelle Makaivi Givalkotavut. Et là, pour le coup, c'est un morceau chanté en inuit. Donc c'est encore quelque chose d'encore très précis. On est plus dans la folk, hein, mais non pas dans la country. Mais vous allez voir, ce sont des morceaux que je trouve absolument admirables et qui représentent, je pense, assez bien ce qu'est la culture, en tout cas, autochtone. Bonne écoute. I pity the country, I pity the state. And the mind of a man who thrives on hate. Small are the lives of cheats and of liars, of bigoted news press, fascist town crier. Deception annoys me, deception destroys me, the Bill of Rights throws me. Jails, they all know me. Frustrated are churchmen, the saving of soul men, the tinker, the tailor, the colonial governor. They pull me upon me, they're seeking to draw me away from the roundness of the light. Civil servants, they thrive off my body. Their trip is with power, back bacon and welfare. Police, they arrest me, materialists test me, pollution that chokes me, movies that joke me, politicians exploit me, city life that jades me. Hudson Bay fleece me, hunting laws freak me. Government is bumbling, revolution's rumbling. To be ruled in impunity is tradition continuity. I pity the country, I pity the state, and the mind of a man who thrives on hate.
Ikal liak bibinipun, ikal alors Ungerman nani likia ilepan ni exati ni kayo naksibo ipu itu li dagba du lifton kain nangidun. Makai bigi balau tabun umayu kaum neman nani likia ilepan ikalia bivinir pun ikalu kaum neman nani likia ilepan ni fiksati kayong naksibong ipuituli tagbatulitong kayong nangitong.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country et qui fait partie du créneau Vive le cinéma sur Allegre FM 93.1. Pour ouvrir un petit peu le champ des possibles, on s'est dit qu'on réfléchirait un petit peu à des films de fiction qui seraient reliés au documentaire dont on vous a parlé de notre cher Frédéric Wiseman. Et donc, en parallèle de Titty Cut Follies, on imaginait Shock Corridor du grand Samuel Fuller. Et puis, en parallèle de Law and Order, on s'était dit pourquoi pas Les flics ne dorment pas la nuit de notre cher Richard Fleischer. Charles, Shock Corridor, Titty Cut Follies, deux sujets assez similaires, deux manières de faire très très différentes.
Différentes et en même temps pas tant que ça, je trouve. Et c'est surtout, j'avoue, on a sélectionné ce film-là avec Thomas plus que, on va dire, Volotu Nani Coucou, qui aurait pu complètement rentrer là-dedans. Hein, vu que ça parle d'un criminel qui se fait passer pour fou, enfin bon, il y aurait pu avoir. Mais ce qui est intéressant dans Shock Corridor, là, ça va vraiment parler d'un homme qui est sain, qui est journaliste, ouais, et qui se fait passer pour un patient et qui va en fait petit à petit lui-même être détruit par le corps médical en fait et par l'hôpital psychiatrique qui doit théoriquement soigner les gens. Ce qui moi m'intéresse dans ce travail-là, c'est qu'il y a quand même un travail très esthétisé bien sûr chez Fuller, puisqu'il y a aussi des séquences, en tout cas dans une version moi que j'ai, il y a des passages qui sont aussi aux couleurs, qui représentent un peu la folie, qui représentent un peu les souvenirs.
Oui, il y a des très grands moments presque de cinéma expérimental.
Ouais, complètement. Mais ce que j'ai aimé, et là où je le rattache aussi, c'est d'un point de vue esthétique, puisque le film est quand même principalement en noir et blanc. Et ça, c'est quelque chose, dans les premiers films de Wiseman, on retrouve ça. Il a quand même, pendant pas mal de temps, tourné quand même qu'en noir et blanc. Et ça donne quand même une patine à son cinéma et au documentaire assez particulier. Et Shock Corridor, en plus d'être un film peut-être un peu moins connu que Volotu Nani Coucou, pour moi, c'est, je pense, un des plus beaux films sur, justement, la folie, et en tout cas sur ce thème des hôpitaux psychiatriques, on va dire, au cinéma.
Oui, puis c'est un des films les plus subversifs de Fuller, un de ses plus beaux aussi. En termes de rythme, il y a des choses d'une modernité énorme, notamment tous ces passages de cinéma expérimental. C'est toujours intéressant de découvrir les films de Samuel Fuller, et pourquoi pas commencer par Shock Corridor. Et il y a aussi beaucoup d'humour avec ce personnage interné d'afro-américain qui prêche contre sa culture, hein, je sais pas si tu te souviens, qui fait des grandes prêches racistes complètement décalées, et qui rappelle un petit peu un détenu patient de Titty Cut Follies hein, qui se met à prêcher des choses politiques, à crier des choses politiques dans l'open space. L'open space, c'est horrible de parler comme ça. Dans les salles communes, qui prêche des choses politiques, qui renvoie un petit peu à Shock Corridor. Donc voilà, Shock Corridor, est-ce que tu as l'année du film ? Là, je ne m'en souviens pas, mais à mon avis, c'est assez proche. Je me demande si ce n'est pas la même année, par ailleurs.
1963.
Ok, très bien, 4 ans plus tôt. Mais même, disons, continuité intéressante dans la fiction. Côté policier, il existe des dizaines de films sur la police américaine. Il y a des très très bons films. Il y en a un notamment qui s'appelle Les flics ne dorment pas la nuit, qui est adapté d'un livre roman de Joseph Wambong, qui est un ancien policier de la LAPD, qui a fait 15 ans chez les flics et qui avant faisait la guerre du Vietnam, et qui est un énormissime écrivain de littérature américaine. Fleischer en a tiré un très très grand film, avec notamment George C. Scott dans un rôle absolument bouleversant. C'est un film sur ces types qui patrouillent la nuit, hein, parce qu'une des spécificités de cet auteur au départ, Joseph Wambong, c'est qu'il prend la figure du détective, ce qu'on appelait le privé, du Faucon Maltais, tous les films de... Donc tous les rôles de Humphrey Bogart, etc., de privé. En fait, cet auteur, Wambong, il va tout d'un coup s'intéresser à la figure du flic qui patrouille dans la nuit. Le flic en uniforme, qui met les PV, qui va dans les maisons pour arrêter les violences familiales. Voilà, ce flic-là, il va devenir central dans toute sa littérature et il va remplacer la figure du privé. Et Les flics ne dorment pas la nuit, c'est l'histoire de ces flics-là qui patrouillent la nuit et qui arrêtent les prostituées pour les ramener en dégrisement ou juste pour les faire chier, qui empêchent les cambriolages, les violences familiales, et puis qui parfois se prennent une balle dans la tête parce qu'ils sont en dépression ou parce qu'ils manquent de mettre un ticket pour un feu rouge brûlé à Los Angeles. Qu'est-ce que toi tu penses des flics ne dorment pas la nuit de Fleischer, Charles ?
C'est un film qu'on a découvert ensemble et que j'avais adoré à l'époque de sa sortie en Blu-ray, DVD, je sais plus, c'était il y a quelques années maintenant.
Chez Carlotta.
Et effectivement, autant on montre vraiment les violences policières dans Law and Order et on voit vraiment une petite ville de Kansas, là, faut bien avouer, ça se passe à LA, c'est beaucoup plus, on va dire, urbain comme film, mais il y a ce truc de fragilité chez ces policiers, puisqu'on va suivre effectivement George C. Scott, qui est donc cet ancien policier, un peu, comment on dit...
d'origine polonaise sur la fin de service.
Voilà, mais un flic un peu à la dure, quoi, on va dire ça comme ça, et qui va être en fait avec Stacy Keach, qui est une espèce de rookie, hein, qui en fait, dans mon souvenir, c'est pour se payer des études qu'il devient flic. Et finalement, il y prend goût. Et il y prend tellement goût qu'en fait, il va plonger en fait dans quelque chose d'assez âpre et d'assez dur. Et en fait, ça montre un peu aussi du côté des policiers, on va dire, une espèce de d'effondrement mental et psychologique. Ces deux personnages principaux, en fait, un qui ne se rend pas compte qu'il va s'effondrer, et l'autre qui n'en peut déjà plus et qui, en fait, sa vie, il est lessivé par la vie, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est un match qui fonctionne très bien entre ces deux acteurs.
Et c'est un film de 1972, hein, donc voilà, 3 ans après Law and Order. Et pour ouvrir et terminer cette émission, j'ouvre à nouveau hein, sur Joseph Wambong, parce que je suis en train de les lire en ce moment, sur son deuxième roman qui s'appelle The Blue Knight et qui parle vraiment spécifiquement d'un flic qui patrouille à 4 jours de la fin de sa... 3-4 jours de la fin de ses années, de toute sa carrière. Et c'est bouleversant, c'est écrit avec une finesse et une économie des mots et de moyens qui est extraordinaire. C'est de la très grande littérature policière et donc de la très grande littérature. Voilà, je vous conseille, si cet univers-là de la police écrit par un policier sur le point de vue de ce métier qui est si difficile, si ambigu, passionnant aussi quand même, sur le monde que ces gens-là vivent. Voilà, je vous invite à vous plonger dans les romans de Joseph Wambong, qui ensuite écrira sous forme de roman des vraies enquêtes policières qui ont eu lieu. C'est aussi quelque chose d'autre qu'il va faire. Popcorn et Banjo, la 19e, c'est terminé, mais on se retrouve le mois prochain et on va vous concocter, on l'espère, une nouvelle bonne émission. Qu'est-ce que t'en penses ?
On peut espérer.
Voilà, voilà. Salut à tous.
Salut.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.